Chapitre 11. Les affres de l'aphonie. Pouvez-vous imaginer ce qu'est une aphonie avant une générale? Non, vous ne pouvez pas. Pas plus qu'on ne peut inventer les peines de l'enfer, si doué qu'on soit pour l'horreur et la torture. Et figurez-vous qu'au théâtre, l'aphonie est monnaie courante. Ce qui est extravagant, c'est que dès qu'il ne s'agit plus de soi, on est pris de doute quant à la véracité de l'incident. Le malheureux qui en est frappé devient un simulateur, un taré sur le plan de l'esprit, un type qui s'imagine des choses, un froussard mort de trac avant que le temps n'en soit venu, un dégonflé qui ne veut pas affronter la sanction du public. Bref, il est victime d'une faiblesse psychique. Quand cela vous arrive, vous avez beau avaler des tisanes, vous bourrer d'antibiotiques, vous faire piquer à l'acupuncture, vous rincer le nez, vous gargariser, puis varier avec les aérosols, les granulés homéopathiques, toutes choses qui font perdre du temps et qui sont beaucoup moins plaisantes que venir répéter en toute sérénité. Personne ne vous croit. Même si vous arrivez au théâtre enveloppé de foulards, couvert comme un oignon qui s'est bardé pour affronter le plus rude des hivers, même si vous ne pouvez plus sortir un son, si vous êtes pâle et défait, tremblant de fièvre et vacillant, je vous l'affirme encore, personne, personne ne vous croit. Il ne peut s'agir que d'un phénomène psychique. Et si vous commettez l'imprudence d'aller dire bonjour pendant ce temps-là à votre psychiatre pour essayer d'obtenir de lui un réconfort, savez-vous ce que vous entendrez? Votre grippe, c'est moi. C'est un comble, c'est un scandale, cette mauvaise foi générale. Elle contribue à achever de vous détruire. Tout le monde sait pourtant que le théâtre est le lieu béni du courant d'air chronique, que certains sont équipés de l'air conditionné, suprême luxe qui entretient et sème la bronchopneumonie du légionnaire, cette maladie dont on meurt parfois. On sait aussi qu'au théâtre, on partage tout, comme en famille, qu'on s'y embrasse 1000 fois par jour, sans amour, mais pourtant avec une générosité de cœur qui fait fi des épidémies. Eh bien non, personne n'accepte, ne veut accepter, ne veut croire à l'authenticité de vos mots. Cette malheureuse poupette, une de mes bonnes amies, c'est même entendu dire par une femme forte, très forte, un grand emploi, « Comment tu te permets d'être mal fichu ? Moi, jamais ! Fais comme moi !» 15 jours plus tard, la dame au grand emploi était à son tour terrassée. Et, au téléphone, elle recueillit ce verdict d'un de ses camarades les plus intimes qu'elle appelait au secours. « Mon pauvre chou, secoue-toi, tout ça c'est psychique !» Camarade intime qui, à son tour, cela fait la chaîne. Mais de même que la grippe doit être subie jusqu'à son terme, de même, il faut accepter l'idée que les acteurs sont sans miséricorde à l'égard les uns des autres. C'est incurable. C'est psychique. Je répétais une très jolie pièce. J'avais un très beau rôle, un parfait metteur en scène, un enthousiasme délirant au cœur. Comme était délirant mon personnage, une dame en proie à une passion physique et qui avait de plus la passion moins déchirante, celle-là, des bonnets en dentelle. D'ailleurs, tous les personnages dans la pièce ont de ridicules marottes. L'un est obsédé par le tapis de l'escalier, le second se promène avec une trompette, le troisième surveille les robinets et court après le robinetier pendant toute l'action. Le dernier, enfin, fourbit sans arrêt son sucrier d'argent ou le fait fourbir par sa famille. Pour agrémenter ce délire général, autant que poétique, on avait ponctué les scènes de chansons. Françoise Dorin en avait écrit les paroles. Guy Montampelli, la musique. C'était un délice. J'allais m'entraîner avec une vedette du show business des années 30. Un vieux monsieur charmant, perdu dans un antique et immense pull vert qui n'avait jamais dû pouvoir remplir. Il me faisait allonger par terre, prendre d'immenses respirations abominables et s'émerveiller, la main sur mon ventre, que je sache faire ça comme si toute ma vie j'avais eu un coffre digne de contenir une valkyrie. Il avait d'ailleurs, cet homme exquis, pourquoi ne pas le nommer, c'était Jean Lumière, un don d'émerveillement inépuisable. Il regrettait beaucoup que je n'aie pas fait une carrière d'opérette. Mais la pièce de la biche, la station Chambaudet, avec toutes ses chansons, devenait une comédie musicale qui se présentait pour lui sous les meilleurs auspices. Les décors s'envolaient dans les cintres, ma voix s'envolait dans la salle, les cœurs des protagonistes s'envolaient d'enthousiasme. Jean Lumière se serait envolé de plaisir si le poids de son pull-over ne l'avait pas pour quelque temps encore retenu à la terre. nous étions tous follement heureux. Et un matin, patatras, la grippe. J'arrive au théâtre plus morte que vive. On me rassure. Il reste 15 jours, tu as le temps de te remettre. Je pense. Oui, à condition de cuver au lit. Les répétitions continuent. C'est la période épuisante de la prise de possession de la scène où il faut réadapter le travail, le transposer, le faire passer la rampe. En marge du plateau, les essayages se succèdent. On m'habille, on me déshabille, on me perruque, on me bonnette. Moi, pauvre poupée de chiffon, sans nerfs, sans jambes, sans tête, sans bras, je me prête à ces exercices d'apparence futile avec conscience. Mais je garde précieusement le meilleur de moi-même pour la scène. Là, j'oublie mon épuisement dans l'effervescence de l'action. Pourtant, quand je m'approche de l'orchestre, en âge, pour chanter mes romances, je constate que ma voix souffre de cruels manques. Ce n'est plus qu'une sorte de terrain mini. J'y dérape dans des trous avec désespoir. « mais non, » dit Jean Lumière quand je me rends à son studio de travail. « Ne vous inquiétez pas. Ce ne sont pas les cordes qui donnent le son, mais les résonateurs. Tout dans le masque. Vous avez tout dans le masque. Donc vous n'avez rien à craindre. » Il ajoute tristement. « Malheureusement, je suis obligé de partir une dizaine de jours. Je serai là pour la générale. Mais d'ici là, essayez de trouver un autre professeur. » Et me voilà, la mort dans l'âme, chez une cantatrice qui pratique le bel canto en récital. Ça va être une autre école. Elle est aussi collectionneuse de petites cuillères. Il y en a partout qui tapissent les murs. C'est une passionnée à la manière des personnages de la biche. Je pose un regard subjugué sur cet accessoire à dessert représenté à des milliers d'exemplaires. Ayant observé ma surprise, « Oui, me précise-t-elle, chaque fois que je voyage, c'est incroyable ce qu'elle a pu voyager, cette femme-là. » Je sors de ma contemplation. Elle m'a conduite au piano. Elle commence à égrener des gammes. « Faites-moi ça, dit-elle, sur ni ni non nor nan. Allez-y, avec expression. » « Est-ce bien nécessaire, l'expression ?»« Évidemment. Si vous mettez de l'expression là-dessus, vous en mettrez sur n'importe quoi. » »« Bien entendu. D'ailleurs, j'ai trop peu de voix pour entamer une polémique et je commence. « Ni ni non nor nan. » C'est fou ce que ça m'inspire. 3 quarts d'heure passent ainsi, l'œil au plafond, plein d'extase angoissée. En me reconduisant, ma répétitrice me conseille de ne pas être impatiente. Il m'a fallu 10 ans pour mettre en pratique la théorie de mon maître, et 2 ans encore pour l'appliquer parfaitement. Maintenant, dit-elle ravie, je chante avec des laryngites aiguës. J'ai pas tout le monde, c'est fantastique. Ah oui, mais moi je n'ai pas 10 ans pour y parvenir, je n'ai que 8 jours. En sortant de chez elle, je ne peux me défendre de cette mauvaise pensée. C'est une femme qui cherche une rente. Et j'en reste là. J'attendrai que Jean Lumière revienne. Je commence la course aux otorinos. On m'applique des colliers électriques pour stimuler et donner du tonus aux cordes. Les cordes, ce sont des muscles, n'est-ce pas? Quand vous êtes fatigué, ils en prennent un coup, les muscles. Vous ne croyez pas que c'est un virus ou un sale petit microbe et qu'il me faudrait des antibiotiques, docteur? Si c'est un virus, les antibiotiques ne servent à rien. Et il n'y a pas de sale petit microbe. Vous savez bien que nous vivons en symbiose. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Tout le monde est optimiste. Je n'avais jamais pris à ce point conscience de l'optimisme général. Il n'y a que moi qui ne le sois pas. Je sens que mes forces, de jour en jour, m'abandonnent. La nuit, je rêve que je suis une mouillette plongée dans un œuf à la coque ou une tranche de pain imbibée de bouillon. La voix flanche de plus en plus. Les résonateurs ne me donnent pas l'absolue certitude que, sans le secours des cordes, ils soient vraiment efficaces. Je commence à les regarder comme de faux amis dont les bonnes intentions et les promesses ne survivent pas aux épreuves. Un matin, plus rien. Rien de rien. Plus l'ombre d'un son dans le larynx, aussi désert que l'était l'Orient pour Antiochus, sans la présence de Bérénice. Le généraliste enfin appelé, pourquoi l'avoir oublié celui-là, se prononce vertement. « Qu'on vous foute la paix !» Et pas un mot, surtout pas de téléphone. Mais la première, qu'on la recule. Il en a de bonnes. Toutes les salles sont faites, des milliers d'invitations ont été confiées aux bons soins de la poste. Le théâtre va être en révolution. Les services administratifs entre les ordres et les contre-ordres, vont devenir fous. Et si je ne réponds pas au téléphone, comment saura-t-on que je n'ai plus de voix ? Cruel dilemme. Me voilà au lit. Une fièvre de cheval. Je plonge et me désintéresse des contingences extérieures. Je suis hors d'usage. Peut-être au bord du tombeau. Si la terre et le théâtre s'effondrent, ça ne changera rien à mon propre sort. Le vase clos, la bouilloire intouchable tellement elle est brûlante, c'est moi. Sans cerveau, sans intention, sans avenir, sans métier. L'objet en ébullition qui n'a aucune notion de rien, ni du temps, ni de l'espace. Le feu d'un devenir imprévisible. Une sorte de néant en gestation. En gestation de quoi ? Le passé n'existe plus. Le présent n'existe pas. Le futur ne saurait être. Et plouf, je dors. Le téléphone sonne sans arrêt. Mon mari peintre renonce à tenir sa palette. Avec philosophie, il l'a placée devant lui et, le pinceau dans la main droite, il décroche de la main gauche. Il répond. Elle ne peut plus parler. Et alors ? Je ne peux rien vous dire. Ce qui revient au même. Deux êtres dénués de toute expression logent désormais dans notre appartement. La première représentation doit avoir lieu dans 4 jours, la générale dans 1 semaine. Le lendemain, un peu moins anéanti, j'entends mon mari proférer au pied de mon lit. « Il faut que tu ailles voir le professeur X, c'est Z qui t'y envoie. Il paraît que c'est un homme extraordinaire. Il te mettra des écouteurs sur les oreilles, tu vas t'entendre, et après cela tu parleras. » Mon mari, bien qu'il fasse des efforts, ne semble guère convaincu. L'explication, quant à moi, m'emplit de doutes. Comment les écouteurs sur les oreilles peuvent-ils me permettre de m'entendre si je ne parle pas et me faire parler si je ne me suis pas entendue ? Je sens remonter la fièvre. Il est évident que je ne suis pas en état d'affronter un raisonnement aussi complexe. Je me livre donc au hasard. Avec une totale bonne volonté, et un courage professionnel exemplaire, je m'habille, je m'entortille, passe de la vapeur du lit à la vapeur de la fourrure doublée de laine, doublée elle-même de sous-vêtements, et je saute dans un taxi en priant bien poliment le chauffeur de fermer ses vitres. J'arrive chez le professeur. Un très bel appartement dans un très beau quartier. Ça rassure. Une moquette blonde, comme le sable à marée basse, sur une plage vierge de pollution. Ça rassure aussi. Très peu de meubles, de grandes poteries, quelques objets précieux mis en valeur, au mur, des surréalistes. On me fait tout de suite entrer dans le cabinet de consultation. À peine suis-je assise que le professeur apparaît. Il est tondu et couvert de sable blond, partout, comme sa moquette. Il essaie de me faire parler. Dure épreuve. Dans les minutes qui suivent, j'apprends que j'ai commis faute sur faute. « Pas de citron, madame, pas de vinaigre, pas de miel, pas de pamplemousse, pas d'aspirine, pas de pain, pas de pommes de terre, pas de riz, pas de pâte, pas de sucre. » Je me sens dépossédée de tout. « Des aérosols ? Quelle folie ! Je suis épouvantée. J'ai fait tout ça, j'ai mangé tout ça, tout ce qu'il ne fallait pas. Je suis stupéfaite de mon ignorance. L'ombre de Knock subitement flotte partout. Je ne sais pourquoi. Entre lui et moi, soulevé par un petit vent de sable. Pas de mauvaise pensée, madame. Ça, c'est moi qui le dis. Soudain, il me pose une étrange question. Savez-vous que vous parlez à gauche ? Voilà qui est nouveau aussi. Je parle à gauche ? Oui, de cette façon. Cette façon, imitée par lui, ne me semble pas belle du tout. Il enchaîne. Entendez-vous bien de l'oreille droite ? « Oui, très bien, j'ai des oreilles d'Indien. »« Non, madame, ce n'est pas possible. Si vous parlez à gauche, c'est que vous entendez mal à droite. »« Allons bon. Et voilà que je suis menteuse par-dessus le marché. Ignorante et menteuse. Ah, j'en apprends des choses. »« C'est très simple, dit-il. Je vais vous arranger cela. Vous allez monter à l'étage supérieur et on va vous tirer l'oreille. » Je pense, comme à l'école, je l'ai bien mérité. Je suis un véritable cancre. Et je sors du lieu de consultation, un peu surprise tout de même, de n'y avoir subi aucun examen. D'habitude, les otorinos vous éclairent avec une lampe qui a l'air d'un œil de libellule, vous enfoncent des petits bâtons, des cornets. Là, pas un regard sur les secrets de mon larynx. Cet homme-là, comme les gens de qualité, sait tout sans avoir rien appris. Me voilà à l'étage au-dessus. Le même appartement, mais divisé. Des cabines, des isoloirs. Une grande effervescence règne. C'est rempli d'enfants et de mères affolées. Tous sont forcément des sales gosses mal élevés qui n'apprennent pas leurs leçons et à qui il faut aussi tirer l'oreille. On ne fait plus ça en famille maintenant. On demande au docteur d'intervenir. Ainsi, on est sûr que c'est efficace. Un homme en blouse me prend en charge. Il a l'air très ennuyé. Il tourne sur lui-même et finit par me dire « C'est embêtant, je n'ai plus de cabine !» Mais il jette un coup d'œil circulaire, appuie subrepticement sur un bouton, ouvre une porte et fait sortir un petit garçon. « Voilà, c'est fini pour aujourd'hui !» lui dit-il avec un sourire engageant. « Déjà ?» dit la mère en jetant sur moi un œil soupçonneux. « Oui, oui !» Il me fourre dans la cabine. « Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'attend-on de moi ?» Au mur, il y a des écouteurs. Sur la tablette, devant moi, des conseils d'emploi ainsi qu'un crayon et du papier. Je lis. En écoutant, dessinez. Votre dessin permettra de vous identifier. Ce doit être une sorte d'erreur de mes sens abusés, comme on dit dans le répertoire. Je suis victime d'une illusion. Avec bonne volonté, je pense pourtant à ce que je peux dessiner pour leur faire plaisir. Rien. Peut-être un bigorneau ou un petit chat. Un rond pour la tête, deux triangles qui figureront des oreilles pointues, un rond sous le premier rond pour le corps, deux bâtons pour les pattes, terminés aussi par deux autres petits ronds, pour que ça tienne. Et puis, derrière, une espèce d'asticot en guise de queue. Je suis aussi consternée qu'embarrassée. Je ne sais même pas dessiner un arbre sans feuilles, ce qui est, paraît-il, le signe d'une grande richesse intérieure. C'est difficile, un arbre. Ça répond aux exigences des règles du nombre d'or. Il faut connaître le nombre d'or, ce qui implique d'être capable de résoudre une équation du second degré. C'est effrayant d'être devant des responsabilités auxquelles on ne peut pas faire face. Car, après avoir eu l'air d'une ignorante et d'une menteuse, je vais passer pour une abrutie. J'aurais dû amener mon mari qui, lui, aurait fait un dessin superbe. On aurait triché. Après tout, au point où j'en suis. Le professeur serait entré dans les arcanes du génie de mon époux, en pensant que j'en étais douée. Il aurait eu de la considération pour sa nouvelle patiente. L'homme en blouse pointe le nez à la porte. Il voit que je sèche. Je hasarde. Le professeur a dû vous prévenir par téléphone. Il m'a dit qu'il en avait l'intention. Je ne suis pas venue pour faire un dessin. Je suis venue pour qu'on me tire l'oreille. Ah bon, dit l'infirmier. Alors je vais vous mettre ailleurs. Suivez-moi. C'est étrange pour moi que l'incroyable lui semble vrai à ce point. Il me passe à une infirmière. Elle me dirige vers une sorte de box fermée par des cloisons et un rideau. Elle m'explique qu'il faut que je m'installe sur le divan étroit qui remplit l'espace. Je vais écouter de la musique. Une musique un peu spéciale, dont on a enlevé tous les graves, afin que je n'entende que les aigus. Ça m'est complètement indifférent. Je vais pouvoir de nouveau m'allonger et dormir. Elle m'ajuste un casque sur la tête, tire le rideau. Je suis chez moi. Je n'entends rien de l'oreille gauche, mais la droite est bombardée de parasites d'où sortent des sons agressifs et stridents. Cela ne m'empêche pas de sombrer dans le sommeil. Soudain, je suis réveillée par le silence. Ce doit être terminé. Je reprends mon manteau et me mets en marche vers la sortie. Je suis rattrapée par l'infirmière. « Où allez-vous? Ce n'est pas fini. Je remets la bande. » Pendant que je me réinstalle, elle demande « Vous avez reconnu Mozart, Bach et Handel ? » ?»« Pas du tout, mais ça ne fait rien. » Et plouf, je me rendors. J'ai l'impression d'avoir dormi longtemps quand je me réveille. L'oreille droite douloureuse, je reprends mon manteau. Je descends l'escalier dans un brouillard et me retrouve inopinément devant le professeur. Il est sur le pas de la porte de son bureau comme s'il m'attendait. Il me sourit. « Bien, dit-il, maintenant on ne vous lâche plus. Vous revenez demain matin. » Demain après-midi, après-demain matin, après-demain après-midi, et ainsi de suite. Mais, dis-je avec innocence, demain c'est dimanche, après-demain c'est le 1er mai. Aucune importance, nous travaillons tous les jours. Maintenant, n'est-ce pas, plus de remède. Le lit est bouclé là. Je rentre chez moi, bien décidée à suivre son dernier conseil et à ne pas revenir. Le lendemain, mon mari téléphone pour décommander le programme musical des jours suivants. « Il est hors de question qu'elle sorte. Elle a 39-8, dit-il exagérant un peu. Le professeur répond que c'est tout à fait normal après le traitement. Je suis cette fois victime des imprévisibles conséquences des modifications harmoniques apportées par la science à Mozart, Bach et Handel. Imprévisible pour moi. Le professeur, lui, n'est pas surpris. Abîmé de nouveau dans la moiteur du néant, je dors. C'est aujourd'hui dimanche. Je n'ai aucun complexe. En principe, le dimanche, on ne répète pas, on joue. Lundi, 1er mai, aucun complexe. C'est la fête du travail. Puisque partout on se tourne les pouces, pourquoi au théâtre ferait-on exception à la règle? Je dors encore. Je suis tirée du sommeil par des arrivées de fleurs. Au milieu des bouquets et des compositions, une de celles-ci m'est envoyée par mon metteur en scène, Jean-Laurent Cochet, accompagnée d'un mot charmant. Pour te permettre de chanter l'air des clochettes comme un rossignol. Je souris et me rendors. La générale est prévue pour le 5 mai. Je serai rétablie d'ici là. Et je suis rétablie le 5 mai. On a désaffiché deux fois les deux spectacles de Galo d'essai, mais la générale aura lieu. La générale a lieu. L'honneur est sauf. Je suis reçue à bras ouverts. Tout le monde a eu peur. Mais en coulisses, on aime les émotions fortes. Les drames aux dénouements incertains, et aussi, à l'occasion, les commentaires mi-figues mi-raisins. Le rossignol est encore un peu déplumé, et le public, prévenu par les désaffichages préliminaires, attend la mise à mort avec curiosité. Il est tout de suite pourtant, dès le lever du rideau, acquis à ma cause. La musique de l'ouverture l'a entraîné à cela, le décor de Jacques Marillier est applaudi. J'ai un ravissant bonnet sur la tête, je suis rose de maquillage, toute pomponnée dans une belle robe et j'ai de la voix. La générale se déroule dans une atmosphère de miséricorde, de chaleur, de ravissement. Les spectateurs sont amoureux de tout, de la pièce, du décorateur, du metteur en scène, de la troupe. C'est ça le théâtre, ses surprises, ses angoisses et ses joies. Au cours des représentations qui suivent, je sors définitivement de l'ornière. Mes oreilles se débouchent et sans secours musical spécifique, je commence à m'entendre normalement, de l'extérieur autant que de l'intérieur. Et en même temps que moi, qu'est-ce que j'entends avec une inquiétante précision? Des gens qui toussent, des gens qui éternuent, des gens qui se mouchent. La salle est pleine à craquer de pauvres types, de dégonflés, d'individus incapables de faire face à leurs responsabilités. C'est une révélation pour moi. La salle est totalement possédée par la grippe. Mais de quoi ont peur les spectateurs? Pas de paraître en scène. Alors, d'être pris de passion pour les acteurs, ou de s'ennuyer chez eux après avoir trop ri au théâtre? En tout cas, ils ont peur, c'est flagrant, car ils ont la grippe, et la grippe, désormais je le sais, et n'en démordrai plus, c'est psychique. La grippe à l'automne, en hiver, au printemps, qu'elle vienne d'Espagne, de Hong Kong, des Philippines ou d'ailleurs, la grippe, c'est psychique. Et la preuve, s'il en faut une, c'est qu'on la soigne avec de la musique, que c'est un professeur très savant qui a mis la méthode au point. Et que la science, c'est irréfutable. La science est-elle irréfutable? Les souvenirs, eux, le sont. Fidèles à l'image que nous avons su garder, ils courent après nous tout au long de l'existence, ramenés par des circonstances inattendues, et vivants comme s'ils n'étaient vieux que d'un jour. Je suis toujours stupéfaite de reconnaître une très ancienne relation et particulièrement sensible au fait qu'on me reconnaisse aussi. Je ne suis plus la même, tu n'es plus le ou la même. Nos routes se croisent après s'être perdues. Tant de choses sont arrivées, et pourtant, les rapports se rétablissent instantanément, inchangés. À quoi cela tient-il? Je crois pouvoir dire que cela tient à la chaleur d'une sympathie, à la tendresse. Ceux qui ont été indifférents, on ne les reconnaît jamais, même si on les a mille fois vus. Ou alors, si par hasard on les reconnaît, c'est qu'ils sont devenus vieux et moches.